Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Radio Orient. Il est tout juste 17h avec vous pour ce rendez-vous d'information. Nadia Benchehre, François-Xavier de Calonne. Voici les titres. Gaza déclaré zone de combat dangereuse par l'armée israélienne qui poursuit ses opérations. Les attaques de l'État hébreu ont fait 33 morts depuis l'aube. Le Conseil de sécurité de l'ONU prolonge une dernière fois le mandat de la FINUL, la force de maintien de la paix déployée dans le sud du Liban. Le président français salue cette décision et rappelle l'importance d'un retrait complet des forces israéliennes. Le dossier du jour consacré au nucléaire iranien, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne entament une procédure auprès de l'ONU pour rétablir les sanctions. Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran, décryptera pour nous ce mécanisme appelé le snapback. L'armée israélienne a déclaré la ville de Gaza zone de combat dangereuse et menace d'y lancer une offensive d'envergure contre le Hamas. Pour l'instant, aucune évacuation massive n'a été ordonnée sur le terrain. Les opérations se poursuivent. 33 personnes ont été tuées dans le territoire palestinien depuis l'aube. La situation humanitaire reste dramatique. Selon l'agence palestinienne Wafa, 5 nouvelles victimes, dont 2 enfants, sont mortes de faim ou de malnutrition au cours des dernières 24 heures. Les autorités britanniques décident d'exclure les représentants gouvernementaux d'Israël du salon de l'armement de Londres. Le ministère britannique de la Défense estime que la décision du gouvernement israélien d'intensifier son opération militaire à Gaza est erronée, une mesure qualifiée de discriminatoire par l'État hébreu, dont le ministère de la Défense a annoncé qu'il ne mettra pas en place son pavillon. La Turquie a annoncé ce vendredi avoir fermé ses ports et son espace aérien aux navires et aux avions militaires et officiels israéliens, annonce faite par le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan devant le Parlement turc. Les casques bleus quitteront le Liban en 2027. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé hier de prolonger une dernière fois le mandat de la FINUL, la force de maintien de la paix déployée dans le sud du pays. Cette extension de 16 mois doit, selon le président libanais, donner à la mission l'occasion d'améliorer la situation et de renforcer la stabilité le long de la frontière sud. Le président français Emmanuel Macron a salué cette décision et rappeler l'importance d'un retrait complet des forces israéliennes du Sud-Liban et du respect de la souveraineté libanaise. Le bilan des violences intercommunautaires survenues en juillet dans le sud de la Syrie revu à la hausse. On compte à présent 2000 morts. Cette augmentation fait suite à la découverte de nouveaux corps dans des villages et des villes de la province de Souedia, des zones difficiles d'accès jusqu'à présent en raison de la présence de combattants selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La Russie a concentré jusqu'à 100 000 soldats près de Pokrovsk, une ville clé de l'est de l'Ukraine. Déclaration de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui fait état de situations préoccupantes alors que les démarches internationales en faveur de la paix semblent bloquées. Sur le terrain, les affrontements se poursuivent. Le bilan d'une frappe russe sur un navire de guerre ukrainien s'est alourdi à 2 morts. Plusieurs marins sont toujours portés disparus. Au large de la Mauritanie, au moins 69 personnes sont mortes et une centaine sont portées disparues plus de 48 heures après le naufrage d'une embarcation transportant 160 migrants. 17 ont pu être sauvés. Le bateau avait quitté la Gambie depuis une semaine avec notamment à bord des Sénégalais et des Gambiens. L'actualité en France, le président français a assuré que quelle que soit l'issue du vote de confiance demandé par François Bayrou le 8 septembre, il entend exercer jusqu'à son terme le mandat qui lui a été confié par les Français. Des propos tenus par Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse avec le chancelier allemand Friedrich Merz, refusant de faire de la politique fiction sur une éventuelle nouvelle dissolution. Le chef de l'État a estimé que son premier ministre était face à un défi qui n'est pas insurmontable et appeler les forces politiques à trouver des chemins d'accord sur le budget. Plus de 850 000 enseignants ont repris aujourd'hui le chemin des classes pour une journée de pré-rentrée avant l'arrivée de leurs élèves lundi. Une rentrée dans un contexte de nouvelles incertitudes gouvernementales et de pression budgétaire. Si la secrétaire générale du SNES-FSU, principal syndicat du second degré, dénonce une rentrée de la pénurie, la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, assure qu'elle se fait avec des moyens constants, un nombre de postes de professeurs constants, alors même qu'il y a une baisse de plus de 100 000 élèves à cause de l'attrition démographique. 45 départements se trouvent en crise sécheresse, soit plus du double que l'an dernier, selon le ministère de la Transition écologique, qui évoque un été particulièrement chaud. Selon le site gouvernemental Vigieau, les départements concernés sont principalement situés dans les régions Limousin et Centre, ainsi que Languedoc-Roussillon. C'est ainsi que s'achève ce point de l'actualité. Place à présent au dossier du jour. Vous êtes bien sur Radio Orient, le dossier du jour consacré au nucléaire iranien. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont annoncé avoir entamé à l'ONU la procédure de rétablissement des sanctions internationales contre Téhéran. Ils déclenchent ainsi le snapback, un mécanisme prévu dans le cadre de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015. François-Xavier de Calonne.
Et oui, l'Europe met ses menaces à exécution. Les trois pays surnommé E3, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, évoquent des preuves factuelles qui indiquent que l'Iran est en position de non-respect important de ses engagements en vertu de l'accord sur le nucléaire de 2015. Ils invoquent ainsi le mécanisme connu sous le nom de snapback. Cela, dans une lettre adressée au Conseil de sécurité, s'ouvre ainsi un processus de 30 jours qui permet de réimposer une série de sanctions suspendues il y a 10 ans. Le trio européen pouvait déclencher ce snapback jusqu'à octobre prochain. Nous entrons dans une nouvelle phase de 30 jours que nous devons vraiment utiliser pour trouver des solutions diplomatiques. Des mots ce vendredi de la chef de la diplomatie européenne. Dénonçant un risque majeur de prolifération, le trio affirme avoir fait tous les efforts possibles pour sortir de l'impasse depuis plusieurs années. Et le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, estime que l'escalade nucléaire de l'Iran ne doit pas aller plus loin.
Décision qui suscite de nombreuses réactions internationales, François-Xavier.
Et oui, sans surprise, le ministère iranien des Affaires étrangères dénonce une décision injustifiée et illégale des Européens. Idem de la part de l'allié russe. L'ambassadeur russe adjoint à l'ONU affirme qu'elle n'a absolument aucune base légale et le président russe Vladimir Poutine discutera lundi prochain du programme nucléaire iranien avec son homologue iranien. Ce sera l'occasion d'une rencontre en Chine. La Chine qui a jugé contre-productif le déclenchement du snapback. Pékin estime que cela nuira au processus de règlement politique et diplomatique de la question iranienne. Israël a au contraire salué une étape importante pour arrêter ce programme. Les États-Unis se disent ouverts à des discussions directes avec l'Iran pour trouver une solution pacifique et durable à la question du nucléaire iranien.
Washington s'était retiré de l'accord de Vienne de 2015, le JCPOA, en 2018.
Et oui, c'était sous la première présidence de Donald Trump. Hein, très peu de temps après le début de son premier mandat, le président américain avait rétablit ses propres sanctions. Et depuis, Téhéran s'est affranchi de certains engagements pris, notamment sur l'enrichissement d'uranium. Et le sort de 400 kilos d'uranium enrichi à 60%, ce qui permettrait de fabriquer 9 bombes, reste inconnu depuis les bombardements israéliens et américains. Ces bombardements de juin dernier.
Merci François-Xavier de Calonne pour ces explications. Place à présent au décryptage avec notre invité Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran, auteur notamment de l'Iran, une puissance en mouvement. Il revient sur ce mécanisme appelé le snapback.
Ce processus snapback, en fait, les Européens envoient un courrier au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a encore un mois de délai, hein, c'est un peu la bureaucratie. Si au bout d'un mois, il n'y a pas eu de solution trouvée, ça voudrait dire que toutes les résolutions des Nations Unies et les sanctions associées qui avaient été votées, bon, je crois qu'il y en a quatre hein, dans les années 2000-2010, contre l'Iran seraient rétablies. Et donc notamment, il y aurait un embargo sur tout ce qui est matériel balistique et lié au nucléaire qui seraient transportés vers l'Iran.
On s'en souvient, Donald Trump avait très rapidement rétabli les sanctions maximales dès les premières semaines de son premier mandat. Il avait aussi commencé à appliquer les lois d'extraterritorialité, incitant les alliés à adopter la même politique que les États-Unis sous peine de poursuite. Est-ce que c'est un scénario qui pourrait se reproduire ?
Effectivement, donc Donald Trump est sorti de l'accord sur le nucléaire, pourtant validé par une résolution des Nations Unies en mai 2018, et il a rétabli toutes les sanctions américaines. Et en fait, on n'est pas vraiment sorti de cette situation. Ce que Donald Trump a fait depuis le début de son deuxième mandat, c'est qu'il a menacé l'Iran de nouvelles sanctions. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Il a commencé des négociations qui se sont interrompues, qui ont été interrompues par cette guerre lancée par Israël. Donc on en est là. Les Européens ont lancé ce processus de snapback. La grande question, c'est est-ce que les États-Unis et l'Iran vont recommencer à discuter parce qu'il n'y a pas trop d'autres solutions. Et donc ça, c'est sur la question du nucléaire iranien. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on ne voit pas trop d'empressement, même du côté américain, pour commencer ces négociations pourtant bien nécessaires avec l'Iran.
C'est étonnant, mais est-ce qu'il y a une explication ?
J'ai déjà assez de problèmes avec l'Iran pour comprendre pourquoi Donald Trump fait ou ne fait pas quelque chose. C'est compliqué, mais ce qu'on entend dire, c'est que commencer à négocier, c'est un peu compliqué pour lui parce qu'il a dit que tout le programme nucléaire iranien avait été détruit. Donc s'il négocie, c'est bien qu'il y a toujours un problème. Et puis, il est possible aussi que ses conseillers lui disent d'attendre que la situation économique en Iran va devenir de pire en pire. Donc attendre que l'Iran, si vous voulez, un petit peu, entre guillemets, soit aux abois pour faciliter ses négociations. Mais c'est vrai que c'est un petit peu étonnant du fait de, par rapport à l'urgence du sujet, qu'il n'y ait pas trop d'empressement ou de signes que les États-Unis vont négocier. Alors il y a peut-être une solution, moi j'ai pas aucune idée, il y a peut-être des négociations, on va dire, secrètes en parallèle qui ont peut-être déjà commencé, ça on n'en sait rien.
L'économie iranienne, l'Iran qui bénéficie du soutien actif, très actif même de la Russie et de la Chine, cela a un impact particulièrement important, c'est essentiel pour le maintien de cette économie.
C'est vrai qu'il y a des difficultés économiques en Iran, avec une inflation qui atteint quand même 40% maintenant, une monnaie qui vient de encore se déprécier parce que les gens sont très inquiets, les acteurs économiques sont très inquiets par rapport à ces sanctions. Bon, la Chine, c'est surtout la Chine qui joue un rôle essentiel. Pour l'instant, l'Iran exporte grâce aux achats de la Chine 1 400 000 barils par jour. Alors, c'est pas autant que leur potentiel qui est de plus de 2 millions de barils par jour, mais enfin, c'est beaucoup mieux qu'à la fin du mandat de Trump. Donc, on va dire que la Chine joue un rôle vraiment capital et clé pour le maintien d'une certaine stabilité de l'environnement macroéconomique en Iran, même si, effectivement, on en a parlé, on a une croissance qui reste faible et une inflation qui atteint maintenant 40%.
Les attaques de juillet dernier, la mort de nombreux responsables iraniens, la destruction d'infrastructures également, est-ce que cela a eu un impact important pour l'économie iranienne ?
Oui, on entend. Alors, il y a eu des destructions dont vous avez parlé, mais l'impact, c'est surtout l'incertitude, parce que les acteurs économiques en Iran, en fait, personne ne sait en Iran si la guerre va reprendre ou pas. Donc il y a une situation d'incertitude qui est vraiment, comme on le sait, l'incertitude, c'est pas bon pour les projets d'investissement. Donc ça pèse énormément sur l'économie iranienne. Et en plus, il y a cette menace de réimposition de sanctions des Nations Unies. Donc le climat est plutôt à la méfiance, à l'incertitude. Et ça pèse sur les acteurs économiques, ce qui fait que certains spécialistes pensent que même l'Iran est actuellement en train de plutôt en récession, avec une activité qui est en train de baisser. Donc effectivement, on peut dire que cette guerre a plutôt un impact, a créé un climat énorme d'incertitude pour l'économie iranienne.
C'était Thierry Coville, chercheur à l'IRI, spécialiste de l'Iran, au micro de François-Xavier de Calonne. Il est l'invité de Grand Angle, à écouter également sur le www.radioorient.com. Merci de votre écoute, merci à Mohamed Bezeri pour la réalisation. C'était Nadia Bencher et François-Xavier de Calonne. Excellente suite de programme sur Radio Orient.